Bienvenue à la soirée radiophonique d'Amnet Radio. Comme chaque semaine, nous commençons par l'interview d'acteurs de l'art d'aujourd'hui dans notre émission d'Amnet Art Contemporain. En milieu de soirée, vous retrouvez nos confidences et lectures érotiques dans l'émission Eros d'Amnet. Pour conclure cette soirée, découvrez toutes sortes de sons et laissez-vous aller sur plus d'une heure de musique intégrale. Lors de l'émission d'Amnet, création sonore et musicale, dès à présent retrouvez les infos ou les musiques et les travaux des artistes en vous connectant sur http://damienbourdeau.freef.fr. Bourdeau s'écrit D-A-U-D. Damned Art Contemporain. Retrouvez chaque semaine un ou une artiste, une curatrice ou un curateur, une asso, un ou une critique de l'art contemporain qui vont nous parler de leur réalisation, de leur parcours, de leurs conditions de travail et de leur vie. Ce soir, nous accueillons
Patrice Joly, responsable de l'association Zoo Galerie, pour la suite de l'interview. Ok, donc le choix des artistes, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses dans le choix des artistes. Je dirais que c'est... Il y a un côté comme ça, à la fois contingent, mais il y a aussi un côté volontariste. En fait, c'est la réunion de deux choses. Si tu veux, moi, dans l'idéal, j'aurais bien aimé faire une expo de Jason Rhodes, tu vois, à la galerie, quoi. Ou de, je sais pas, quelqu'un de plus connu, de Richard Serra, enfin, bon, que tout le monde connaît. Ou de, je sais pas, tu vois, de gens très célèbres. Et puis, j'aime aussi beaucoup travailler avec les jeunes artistes, parce que j'aime beaucoup l'énergie en fait qui donne. Et j'aime bien aussi ce côté en fait très boulimique en fait des choses. Là, je parle délibérément en termes de personnes. Hein. Tu verras que je parle pas du tout en termes de travail, de qualité, parce que c'est vrai que il y a plus de catégories. Bon, voilà, on est dans le règne du postmodernisme, je dirais éclaté ou généralisé. On ne peut plus parler de une catégorie artistique, je veux dire que, ou alors on est dans le règne du néo-conceptualisme aussi généralisé, mais je crois que c'est les années 2000, ce qu'on retiendra peut-être des années 00, justement dont parle François Cuisset, c'est que justement on est justement dans le règne généralisé de la fusion, je dirais générale, du concept et de la forme, en fait. C'est-à-dire que l'art conceptuel a au choix gangréné ou fertilisé à peu près l'ensemble de la production de tous les artistes, et jusqu'à la peinture, et chaque art, en fait, a été, je dirais, contaminé par ce qui était humainement plus proche. Donc, c'est le cas notamment pour la peinture, qui, justement, peut-être a subi les plus grandes mutations, je dirais. Quant à la sculpture, n'en parlons même pas, parce qu'elle a explosé, en fait. La sculpture, elle est plus là du tout. En tout cas, un des postulats principaux de la sculpture, qui était quand même cette espèce de phénomène d'érection, je dirais, ou monumentalité, je veux dire, le côté justement comme ça, objectal, le côté face à face, en fait, et même, je dirais, largement anthropométrique, hein, de Tony Smith, justement, qui était un des minimaux, soi-disant n'ayant pas de rapport avec l'anthropomorphisme, c'est avéré que, si, en fait, il y en avait quand même. Donc, ce rapport comme ça, un peu monumental de la sculpture, n'a pas arrêté de subir, en fait, des institutions qui font que maintenant la sculpture n'existe plus. Mais de même que la culture, la peinture non plus, disons que le côté, je dirais, lié à des définitions, tu veux pas, café, thé, ah bon, qui veut nous faire je dirais, le côté, je dirais, utopique, moderniste et greenbergien, il est mort. Voilà, bon, on a assisté à la mort. Des utopies modernistes, et peut-être c'est peut-être tant mieux, parce que quand on voit ce que ça donne les productions architecturales d'un Corbusier, moi j'ai pas envie de vivre dans un Corbus, quoi, par exemple. Enfin, il y a un côté comme ça, cadre mental lié justement aux grands théoriciens du modernisme, qui est assez insupportable, hein, qui est quand même une rigidité mentale, intellectuelle, assez insupportable. Mais je ne veux pas rentrer forcément dans les tenants et aboutissants du modernisme, et donc et ce qui va de pair, c'est-à-dire les restrictions pas postmodernisme mais modernisme, et ses avatars, donc le minimalisme. Puis l'art conceptuel et le land art même, mais toujours est-il que c'est difficile. L'histoire des catégories, elle a pris un violent coup, je dirais, et ça devient difficile maintenant de dire d'un artiste qu'il est sculpteur, même qu'il est vidéaste, puisque déjà Un artiste peut être tour à tour vidéaste, sculpteur, imprimeur. Quand on voit ce que fait des gens comme Kelly Walker maintenant, qui utilise justement l'imprimante comme un pinceau, je veux dire. Dans quel champ opère-t-il? On ne sait pas, et peut-être peu importe. Donc, pour toute cette longue introduction, pour te dire que je préfère justement me référer à des, à des, à des comment dire, à des individualités, plutôt qu'à essayer de recoller des gens dans des catégories et essayer de dire, voilà, on est plutôt orienté vers la sculpture ou vers la peinture ou vers la vidéo ou tout ça. Ça n'a pas de sens. Quand on regarde l'expo de Mladen, bon, c'est quoi? C'est un, il y a de la sculpture, véritablement, il y a un objet sculptural au centre, mais sur lequel est projeté quelque chose, et à la fois, il y a une création musicale. Il y a aussi quelque chose qui ressemble à un socle sur lequel est posé un caillou, mais c'est de l'objet ready-made. Un peu plus loin, il y a, comment dire, c'est l'objet trouvé, hein. Il y a un poster qui est imprimé, et ce poster, c'est pas non plus c'est pas non plus la valeur du poster qu'il y avait chez González Torres. C'est pas un objet à prendre, c'est pas la relationnelle, mais c'est, je dirais, ça a plutôt à voir avec la bande-annonce, en fait, puisque c'est un poster qui, en fait, est un objet qui, en fait, annonce la production ultérieure d'un catalogue. On va aussi faire un catalogue avec Mladen pour essayer de faire le lien avec ce que je te disais précédemment. Donc là, ce sera un plus petit ouvrage, mais qui traitera justement de cette traduction perpétuelle d'une, et des pertes, en fait, de traduction d'une langue à l'autre, et qui aussi fait référence au monde dans lequel on vit, et qui est où les frontières sont de plus en plus abolies, et où qui est de plus en plus cosmopolite. Donc le travail de Mladen, il se situe résolument là-dedans. Voilà. Et c'est aussi ce qui m'intéresse, moi. C'est des artistes qui parlent du monde tel qu'il est. Voilà. Et le monde tel qu'il est, eh bien, on s'aperçoit que pour parler du monde tel qu'il est, voilà, l'économie américaine n'est plus... maintenant, l'hypothèse d'un crack, enfin j'espère bien, un crack aux États-Unis, ne fait plus peur, je dirais. C'est quand même extraordinaire. Il y a 20 ans, je crois que tout le monde serait pendu au plafond en train d'acheter des kilos de sucre. Là, aujourd'hui, on est en pleine crise des supply, mais bizarrement, on se dit que, bah, oui, il y a des économies émergentes qui font que peut-être... ça va prendre en charge justement le dynamisme de l'économie mondiale. Bon, il se trouve que cet état de fait aussi, en partie responsable du fait qu'il y a des migrations phénoménales dans le monde, et que de plus en plus justement des grandes villes sont constituées d'une part de migrants ou d'apatrides, qui est de plus en plus grande. Donc, tout ça pour faire le lien avec quelqu'un comme Mladen, mais Mladen, en fait, il s'appelle Mladen Buzimic, il est né en... Il est... Son père est serbe, il est né à Auckland, donc en... Non, il est pas né à Auckland. Il est... Oui, il est né en Yougoslavie, mais il a vécu la plus grande de partie de sa vie en Nouvelle-Zélande, et en ce moment, il étudie à Los Angeles et à Berlin. Il vit à Berlin et il passe l'autre moitié de sa vie à Vienne. Donc voilà. Donc le travail de Mladen parle de cet état de fait du monde, c'est-à-dire que voilà, cet état d'un cosmopolitisme aussi généralisé, mais où paradoxalement les chocs culturels ont encore du sens. Et n'ont pas du tout disparu. Donc il y a ces deux, en fait, ces deux choses qui sont des mouvements profondément contradictoires, en fait. Hein, le fait que le monde entier se rétrécit, que les populations migrantes sont de plus en plus importantes, que les pôles, en fait, économiques et de pouvoir se déplacent, et que le monde est de plus en plus multipolaire, mais qu'à la fois, il y a des cultures résistantes. Ce qui est assez fou, même si c'est de plus en plus compliqué de faire référence à des cultures particulières, hein, sans tomber justement dans les caricatures, genre béret, baguette, la gastronomie, voilà. Qu'est-ce qui sont les référents de la culture américaine ? C'est une bonne question. C'était justement une des axes de réflexion de Zona Arida. Mais je trouve que moi, c'est une des choses qui m'intéresse en ce moment. C'est les diversités culturelles et les résistances culturelles, en fait, hein, dans le bon ou le mauvais sens. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des zones de résistance, de crispation ou de cristallisation sur quoi, justement, on peut se reposer à l'ère où tout le monde... je veux dire, tout le monde se déplace sur Internet. Il y a bientôt... je crois que là, récemment, ou l'année prochaine, il y aura plus d'internautes en Chine qu'aux États-Unis. Ça, c'est une vraie révolution, je dirais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les cultures, la culture, non pas au singulier, mais au pluriel, à l'heure actuelle, et est-ce que ça veut dire qu'il y a des zones de résistance encore, ou peut-être résistance, c'est beaucoup trop romantique, mais il y a des zones de crispation ou de retenue comme ça. Est-ce que ça a encore du sens ? C'est ça qu'on se pose. Hein. Je veux dire, chez Mladen, c'est ce à quoi ça fait référence. Après, à partir de ça, lui, c'est son socle, je dirais, intellectuel. Après, lui, il en fait formellement une œuvre, hein, qui échappe justement à ces déterminismes, je dirais, intellectuels. Zone aride, en fait, c'est ça, en fait. C'est l'histoire d'un aller-retour. L'histoire, alors pour une parenthèse, hein, Zona Arida, c'est une expo que j'ai fait en tant que curateur indépendant, en dehors de mes activités à Zoo Gallery. Et donc l'idée, c'était d'interroger justement le mythe américain, pour résumer les choses, Olivier Mosset, donc artiste suisse, légendaire, je dirais, puisque faisant partie du groupe BMPT avec Buren, Mosset, Parmentier, Toroni, m'a demandé il y a maintenant 3 ans, avec Morgan Chimber, donc une amie et une jeune artiste, amie d'Olivier, mais qui est maintenant devenue une amie en vrai, et m'a demandé de réfléchir à la possibilité de faire une exposition d'artistes qui connaissaient en fait l'Arizona. Voilà. Parce que lui, il vit en Suisse, mais il passe la moitié de son temps à Tucson, où il a son atelier, sa maison, sa femme, ses voitures, tout le bordel. Donc l'idée pour lui, il y avait une demande en fait très, je dirais, sentimentale. C'était de parler de son home, sweet home, alors que c'est le mec le plus, je dirais, c'est pas un jet-setter, mais c'est l'homme qui passe le plus de temps dans les avions, quoi. Donc c'est le mec le plus déraciné, je dirais, de la Terre, mais il y a cette exigence de vouloir parler de Tucson comme d'un foyer potentiel. C'est ça qui est extraordinaire. Chez quelqu'un comme Olivier Mosset, donc si tu essaies de regarder la trajectoire via son CV, il reste pas plus de 3 jours en place, quoi. Je crois que il n'y a pas une ville de plus de 100 000 habitants dans le monde où il n'ait pas fait une expo, Olivier. Bref, et donc c'est peut-être ça explique ce que là. Donc il voulait faire une expo sur Tucson. Tucson qui est quelque part un peu une ville mythique parce que c'est le sud de l'Arizona. Donc l'Arizona, c'est un état où il y a la frontière avec le Mexique au sud et le Grand Canyon au nord. Voilà. Entre les deux, il y a le désert. En gros, hein. Il y a quasiment rien. Il n'y a que des étendues désertiques. Il y a une grosse ville qui s'appelle Phoenix. Et puis, il y a Tucson. Sinon, il y a des réserves indiennes. Mais il n'y a quasiment rien. Et c'est un état frontalier avec la Californie à l'ouest. Et puis, le Nouveau-Mexique vers l'est. Et au sud, le Nevada. Donc, Las Vegas. Donc, c'est un état, justement, où il y a tous les mythes, en fait. Tous les mythes de l'Ouest, la conquête de l'Ouest. Les Indiens, les cactus, les grosses bagnoles, les grandes étendues, la route, tout ça, c'est là. Voilà, c'est là-dedans. Enfin, tu le retrouves, mais c'est l'état du Grand Canyon, tu vois. C'est l'état où il y a au sud, il y a le mur. Ils sont en train de bâtir le mur, si tu veux, pour séparer les États-Unis du Mexique, pour empêcher les migrants de venir. Donc tu vois, au départ, si tu veux, Olivier m'a demandé de faire une expo de ses amis, en gros, qui ont séjourné, eux-mêmes attirés par cette dimension, si tu veux, mythique, je dirais, tu vois. Et au final, moi j'en ai fait quelque chose qui témoigne de l'impossibilité du mythe, en fait, de la fin des mythes et puis de leur transformation, de leur mutation, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pour te répondre, parce que ça fait aussi partie, si tu veux, de moi. J'accorde autant, si tu veux, de responsabilité dans la programmation de vos galeries que quand je suis une expo en tant que curateur indépendant. Il y a toujours la même exigence. Je veux dire, je fais pas des expos en demi-teinte ou en seconde. Tu vois, c'est toujours à la fois c'est toujours le même degré d'exigence. Tu vois, je pense que tous les gens sont pareils. Enfin, pour moi, c'est inconcevable de toute manière. Et là, l'idée. Mais là, peut-être le moment intéressant, c'est que, en fait, l'artiste, si tu veux, il amène son monde aussi avec son imaginaire, sa naïveté aussi, sa spontanéité. Mais en face de lui, il a un curateur. Et le curateur, il est beaucoup plus pervers, je dirais, parce que lui aussi, il a des velléités, si tu veux, formelles, tu vois, d'agencer les choses, de faire des combinaisons, des arrangements, des résonances. Et moi, j'ai transformé, effectivement, ce que voulait faire Olivier. Au final, ça n'a plus rien à voir avec son idée de départ. D'ailleurs, bon, ça n'a pas été sans mal, parce que lui, il voulait faire un truc, je dirais... inviter des gens des vieux potes, quoi, tu vois. Il voulait mettre aussi Sylvie Fleury, donc on a gardé quand même beaucoup de gens des personnes auxquelles il pensait, donc Diana Ormleder, ouais, qui est aussi son grand ami, si tu veux, depuis toujours, qui est suisse aussi. Ça c'était le noyau. Et puis par contre, moi j'ai fait rentrer deux jeunes artistes parce que je voulais pas faire quelque chose de, si tu veux, de figé un peu dans une époque donnée, mais vraiment l'ouvrir, tu vois, à vraiment une contemporaine réalité très très récente, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a invité Aurélien Froment, qui justement lui avait travaillé sur Arcosanti. Arcosanti, en fait, c'est un peu l'équivalent des cités radieuses de Corbusier ou de Robindi, si tu veux, en Inde. Donc tu vois, c'est une cité qui est basée sur un modèle architectural local indien qui a donné lieu à des constructions et à la création d'une cité, en fait, qui se voulait purement autonome et purement utopique. Et bon, après, si tu veux, ça se transforme en quelque chose qui a plus grand chose à voir, parce que tous les grandes pensées utopiques ont eu leur essor, je dirais, dans l'Ouest des États-Unis. C'est quand même le pays, hein, si tu veux, qui a accueilli beaucoup d'utopies, comme les États-Unis, l'Ouest des États-Unis, du moins. Et c'est là où justement elles sont vautrées dans leur avatar, je dirais, commercial, quoi. et art ressenti, c'est vraiment un truc très très spécifique, parce qu'effectivement la cité a été construite, elle a eu une époque de gloire. À un moment donné, si tu veux, les hippies, le mouvement hippie était très très intéressé par cette ville. Il y a eu des grands concerts, tu vois, comme il y en a pu y avoir justement à cette époque, tu vois, dans les années 70. Et puis, ça a commencé à prendre, en fait. Hein. Donc, si tu veux, l'idée de la cité réellement autogérée et vivant sur d'autres principes que des principes consuméristes a failli prendre à ressenti. Et puis en fait, il y a eu des accidents de parcours, il y a eu notamment un grand incendie, parce que c'était dans le désert, hein, qui a fait que tout le côté, justement, tous ces grands concerts qui ont assuré une notoriété en fait, à la ville à un moment donné, ça a arrêté subitement. Donc les flics en ont profité pour arrêter tous ces trucs-là, tous ces grands mouvements de foule. Et puis du coup, la ville a périclité. Donc, ce qui fait que l'utopie, une de ces, si tu veux, utopies en acte, si tu veux, a décliné, si tu veux, à l'image de tous ces grands mouvements utopiques américains. Donc, pour en venir à Zone Aride, en fait, le point de départ, en fait, c'est comment les artistes, en fait, franco-américains, sont fait une image, si tu veux, de tous ces mythes américains, tu vois. Donc Wilfrid Amendra, il a reconstruit du paysage. Morgan, elle a fait une route sculpturale. Olivier, il a fait du monochrome. Et puis Mathieu, il a fait une palette avec des représentations d'Indiens et d'Indiennes qui correspond effectivement au devenir marchandise des Indiens, quoi, tu vois. Donc il y a déjà une dimension. Il y a une interprétation du mythe, quoi, tu vois, qui s'est fait en France. Et puis là, on est retourné aux États-Unis pour le troisième volet. Et là, en fait, c'est une espèce d'effet boomerang, quoi, tu vois. Là, c'est pareil, on a redonné à voir, là en France, on a donné à voir aux Américains, enfin aux Français, une vision du mythe américain. Et aux Américains, on redonnait à voir une dimension de leur mythe, mais revue et corrigée par cette boucle, en fait, tu vois. Voilà. Donc là, la boucle est bouclée, en fait. La boucle est bouclée, le catalogue est fait, qui en fait témoigne en fait, tu vois, de cette histoire, quoi, tu vois. Moi j'aime bien qu'il se produise des, tu vois, des rencontres en fait avec les artistes. Forcément, au départ, tu sais jamais ce qui va devenir, mais comment tu choisis les artistes? Bon, la plupart du temps, tu les vois dans des expos, tu les vois dans des revues, rarement à la télé, de temps en temps sur des sites, mais où tu les croises aussi dans des vernissages. Je veux dire, bon, mais c'est toujours potentiellement une rencontre humaine. Faut dire ce qui est. Et puis après, comme je te disais non plus, il n'y avait plus de catégorie. Je veux dire, tu ne peux plus catégoriser les œuvres en fonction. Tu ne peux pas dire celui-là est sculpteur, celui-là c'est un post-minimaliste, ou je ne sais pas quoi, c'est terminé. Donc j'ai tendance à dire que maintenant, tu t'attaches plus, si tu veux, à des positionnements très individuels, en fait, très très précis, quoi, tu vois, dans la masse des choses qui se présentent à toi, en fait. C'est très très dur de faire ton choix, tu vois. Donc, bon, après, il y a des phénomènes aussi de... Il y a des phénomènes d'apparition, là, qui font que tel artiste, à un moment donné, est hyper visible. Bon, comme moi, je travaille aussi souvent avec des jeunes artistes, parce que j'aime bien, justement, ce côté... je dirais pas malléable, mais quand même souple. Les artistes jeunes, quand ils commencent à travailler, ils sont pas trop exigeants. Ils sont pas trop gourmands non plus, tu vois. Nous, on a des petits moyens. Donc, moi, j'aimerais bien travailler avec Buren, tu vois, mais je peux pas. Bon, voilà. Donc, bah voilà, je travaille avec Pierre Ardouin. c'est aussi bien. Je veux dire, enfin, je pense aussi que je pense aussi que Buren jeune est plus intéressant que Buren vieux. Bon, voilà. Encore que c'est pas quelqu'un qui vieillit le plus mal, je dirais. Il reste tout à fait pertinent. Mais j'aime bien cette fraîcheur artistique, si tu veux, où les choses ne sont pas en... Les formes, si tu veux, restent ouvertes. Hein. L'œuvre est ouverte, les formes restent ouvertes, et tout est possible, je dirais. C'est la zone des possibles. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Après, il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles pour rencontrer les gens. Moi, je suis amené, de par mes déplacements, de par mon travail, à rencontrer énormément d'artistes. À un moment donné, bon, ce qui fait aussi, ce qui, maintenant, si tu veux, me fait un peu plus plaisir, c'est que bah, si je me déplace, tu vois, si je vais à New York, ou je ne sais où, ou à Berlin, ou, tu vois, ou à Londres, mais pas à Londres, c'est trop cher. Je me dis, bah, toi, cet artiste, j'ai envie de travailler avec lui, et ben, je sais que je vais pouvoir le faire. Enfin, indépendamment, si tu veux, de la distance, de machin, c'est parce que maintenant, on a travaillé aussi avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'étrangers, et qui fait que, quand ils regardent, si tu veux, ce qu'on a fait, ils vont se dire, ok, et. Parce que aussi, bon, faut pas se leurrer, je veux dire, tout s'accélère, voilà, un centre d'art maintenant qui ouvre, c'est presque incompréhensible qu'il y ait plus de 30% de Français, tu vois. Si je fais une expo collective, tout le monde va être étonné, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait aussi partie de... Enfin, les lieux comme les nôtres aussi sont aussi des vecteurs aussi d'introduction de la pensée et puis de la forme extérieure, tu vois, même si les choses ont tendance à se lisser et les travaux à se ressembler, ce qui n'est jamais le cas, je pense, complètement. En tout cas, on participe, et c'est aussi une des dimensions importantes à introduire des pensées différentes, en fait. Enfin, là, je pense que le travail de Mladen, c'est un travail complexe, mais c'est pas un Français qui pourrait faire ça. Je veux dire, pas un artiste français vivant en France. Ou alors, il aurait fallu qu'il passe par New York, Berlin, Sao Paulo, tu vois, le Japon, pour avoir, si tu veux, cette conscience des choses, tu vois. Parce que son travail, en fait, on repose aussi sur... en fait, ça concerne des gens qui ont travaillé sur un projet lié à la fois à des proches de Corbusier qui ont construit un des premiers White Cube en Nouvelle-Zélande, qui a été traduit dans un langage, je dirais, de logiciel d'architecture, et sur lequel va se projeter une musique. Qui est une musique qui a été captée dans les rues d'Istanbul, tu vois. Donc il y a cette prise comme ça en charge de d'un côté mondial, en fait, mondialiste, tu vois. Et je pense que Mladen, justement, de par ses origines, ses gènes, hein, fait qu'il est capable, il est apte, si tu veux, à relater, à parler de ça. Hein. Mais bon, il n'est pas le seul, hein. C'est juste, je dirais, on est simplement, je dirais, au seuil de cette génération d'artistes qui sont vraiment, je dirais, qui sont un peu au-delà des frontières, quoi. D'ailleurs, on l'a jamais eu à ce point-là, tu vois, un tel... une telle généralisation du déplacement, tu vois, et du déracinement, hein, on est vraiment au seuil de la prise en compte, si tu veux, et de ces traductions, tu vois, voilà, je pense, hein, il me semble, et effectivement, ça forcément, ça s'en ressent formellement, puisque comment traduire, si tu veux, cette diversité, tu vois. n'y a pas un médium qui est susceptible. Là, il y a tous les médiums sont convaincus. Tu as de la vidéo, tu as de la sculpture, tu as de la musique. Je veux dire, tu as quand même les... Et puis, de l'impression, tu as les trucs majeurs, si tu veux, qui balisent l'histoire de l'art, tu vois. Sculpture, vidéo, on peut considérer que c'est aussi de la peinture. Là, tu vois, plus l'impression, tout est convoqué, tu vois. L'histoire de l'art est convoquée dans son ensemble. Mais après, ce qui est plus important, c'est ce que je dirais, c'est ce que ça véhicule, sans est-ce que c'est susceptible aussi de produire formellement, tu vois. Parce qu'on est dans le monde des formes quand même. Alors qu'on, bon, faut pas en rêver. On produit de la forme et de la forme à contempler, à regarder, à voir, à percevoir, tout ce que tu veux. Donc, c'est pas qu'un discours philosophique ou sociologique, c'est autre chose. C'est un discours qui se traduit en forme. Voilà. Donc, nous, curateurs, organisateurs d'expos, tout ce que tu veux, on est là aussi. On est des producteurs, en fait. Moi, je suis un producteur, si tu veux. Moi, je suis là, j'offre un lieu. La disponibilité, du temps, de l'argent, de l'espace, un peu de médiation, un peu de communication. Mais voilà, on est des relais. Après, bon, ça dépend où tu mets ton curseur, si tu veux, toi, en tant que créateur aussi. Parce que, bon, voilà, tout le monde aussi a des velléités de créateur, maintenant, tu vois, d'artiste. Moi, je pense que je le mets... dans les expos collectifs ou bien dans la façon de faire des catalogues, tu vois, parce que tu produis un objet aussi, tu vois, qui a une valeur esthétique. Quand tu fais une expo collective, quelque part t'agis un peu en tant qu'artiste, tu vois, parce que tu choisis les artistes, hein, même si c'est compliqué, parce que c'est, tu dis pas je veux travailler avec celui-là va me faire ci, ça j'y crois moyennement, tu vois. C'est très compliqué, tu choisis pas toujours l'artiste ou la pièce que tu vas montrer. C'est une somme de négociations, en fait, maintenant, tu vois, l'art, d'une manière générale. Enfin, c'est quelque chose de... Pour en arriver... En fait, c'est un iceberg, en fait. Hein, mais c'est comme la scène, hein. On voit jamais les coulisses, mais c'est toujours pareil, en fait. Une expo, en général, c'est un an ou deux ans de... Il faut deux ans pour aboutir à une expo, tu vois. Un catalogue, il faut deux ou trois ans. C'est un temps fou. Mais comme les choses se superposent, t'as l'impression comme ça, comme il y a un mois et demi entre chaque expo, que ça dure un mois et demi. Mais non, c'est pas vrai, en fait. C'est beaucoup plus de temps, en fait. Et puis, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'entre le moment où toi, tu vas contacter un artiste et le moment où il arrive, des fois, le projet, il a changé du tout au tout, quoi. Tu retrouves plus du tout la raison pourquoi tu l'as invité, tu vois. Et tant mieux, je veux dire, tant mieux, parce que ça veut dire que les choses sont pas figées, tu vois, que les choses évoluent constamment, tout se déplace, tout germe, tout est fécondé par tout un tas de choses, tu vois. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de plus en plus, c'est en fait les artistes qui prennent en compte aussi, je veux dire, c'est des phénomènes mondiaux, économiques, géographiques, culturels, tu vois, les transitions, les chocs culturels, tout ça, mais qui sont pas dans des langages, je dirais, plaqués, tu vois. Pas, tu vois, l'idée, c'est de les traduire formellement, tu vois. C'est là où ça devient compliqué. C'est là où j'estime que Mladen est vraiment quelqu'un c'est un super beau boulot, et je crois qu'il ira très loin, parce qu'il a réussi à, justement, en partant d'un positionnement... D'une vraie prise conscience du monde tel qu'il est, et il en fait quelque chose, justement, qui s'inscrit aussi dans un devenir artistique, dans une histoire de l'art, tu vois. Et il produit de la forme. Voilà ce qui m'intéresse, moi, au bout du compte, quand même. Hein. Moi, je suis pas... je produis pas de musique, je produis pas, tu vois, de spectacle. Même si la performance, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. notamment l'année dernière, on a fait aussi, on avait montré Lily Renaud des Wars, et ça m'intéresse aussi énormément, parce qu'elle aussi, elle est aussi à la charnière, tu vois, pas des chocs culturels, mais si tu veux, de la prise en compte de toutes ces cultures marginales, en fait, toutes ces cultures qui sont rarement quand ont été prises en compte, mais de manière complètement, si tu veux, marginale, comme le vaudou, si tu veux, par exemple, ou les rastas, ce genre de choses, tu vois, les cultures blacks en général. C'est toujours des choses qui sont secondaires, en fait, tu vois, par rapport à une culture occidentale majeure, mainstream. Mais tu t'aperçois quand même que Picasso, l'art nègre, c'est important pour lui, tu vois. C'est un peu ce qui a régénéré son travail, mine de rien. Et ce qui m'intéressait beaucoup, justement, chez Lily, c'était qu'elle arrivait, justement, à constituer un langage, je dirais, ultra-contemporain, post-minimaliste, mais en venant le charger, si tu veux, de toute une iconographie vaudou, rasta, si tu veux, je dirais, alternative, quoi, tu vois. Et en même temps, en faisant jouer, si tu veux, à ces pièces, à cette culture, un autre rôle qui n'était pas seulement être un rôle ou une posture sculpturale, mais aussi être des objets qui servaient de mobilier à une performance. Donc, si tu veux, elle lui faisait dire pas qu'un seul discours, si tu veux. Donc, la pièce, elle est autre chose. Elle est sculpture, mais l'autre aussi. Elle est aussi. Elle est décor, tu vois. Et c'est aussi quelque chose de si tu veux, qui traverse quand même le siècle, si tu veux, le statut de l'objet, tu vois. Et comme je le disais tout à l'heure, l'objet d'art, c'est ce qui échappe à sa posture utilitariste, qu'on ne sait pas où, qu'en faire, dont on ne fait jamais le tour, en fait, si tu veux, dont on n'épuise jamais à la fois la signification, mais les utilisations. Et qui est tout sauf utilitaire, qui est à la fois esthétique, mais aussi, tu vois, dans le cas de la performance, qui a aussi un autre statut, qui sert de support, tu vois, à autre chose, qui est la performance. Hein. Ça m'intéresse. Enfin, forcément, quand les objets sont à la fois polysémiques et qui jouent à la fois sur valeur esthétique pure, mais aussi quand ils sont chargés, si tu veux, d'autres histoires. En l'occurrence, chez Lily, c'était bien parce que t'avais de plein de mélanges, si tu veux, de kitsch, de minimal absolu, de couleur rasta, tu vois. T'as une espèce de brouillage comme ça, des pistes, et puis des origines, des sources. Ça devient bien, parce que c'est à l'image du monde, en fait, tu vois, simplement. Dire, moi, l'artiste qui est campé sur son propre territoire. Bon, tu me diras, c'est de plus en plus difficile. Je vois pas comment l'artiste peut justement créer ex nihilo. Tu vois, il est trop bombardé d'informations. Après, comment peut-il être un filtre et crédible et pertinent? Et plus il y a, plus il englobe. Plus il est conscient, si tu veux, à l'échelle mondiale, et plus il arrive à affiner des productions, formelles, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est ce différentiel entre la prise en charge du monde et de son immensité, et d'une production personnelle la plus ténue possible. Ça, c'est ce qui fait justement toute l'intérêt pour un artiste. Pour répondre à ta question, comment choisir des artistes? Voilà.
Before they were spent, I've seen what I want.
Et je dirais qu'avec les auteurs, c'est beaucoup plus simple. Parce que, déjà, il y en a beaucoup moins. Je dirais. D'ailleurs, on les voit un peu partout. Bon. Après, faut dire que. Quand même, je pourrais dire que c'est un peu la même chose. C'est à la fois contingent et puis volontaire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé 02, on s'est adressé naturellement aux gens, aux écrivains de Nantes, de Rennes, tu vois, de la région. Donc, à Nantes, il n'y avait pas beaucoup de gens, tu vois, il y avait Pierre Jiquel. Bon, À Rennes, il y avait Jean-Marc Huitorel. Il y avait David Perrault. Il y avait très peu de gens, en fait. Il y avait très peu de critiques en région. Donc, tout de suite, on était à l'étroit. Et tout de suite, c'est pareil. En fait, les auteurs, on les rencontre dans les revues. Donc, quand tu lis des revues, tu rencontres des auteurs et tu te dis, bon, tiens, celui-là, j'aimerais bien qu'il écrive pour moi. Et puis, tu finis par les rencontrer. Mais si tu veux rencontrer des auteurs, il faut se déplacer parce qu'à Nantes, t'as vite fait le tour, à Rennes aussi. Je dis ça pas du tout de manière péjorative d'ailleurs, hein, parce que les auteurs les plus intéressants que j'ai rencontrés, c'est Lily Reynaud à Nantes et puis c'est Vincent Picot à Dijon. Et c'est pas des Parisiens, tu vois, mais c'est. Voilà. Par ailleurs, à un moment donné, j'ai vraiment été obligé de aussi d'émigrer quelque part à Paris parce que c'était plus tenable. Je pense qu'à un moment donné, la revue, on était vraiment à l'étroit parce qu'on avait très peu de pages. On pouvait parler. Donc on avait cette valeur comme ça. Un peu, chevaleresque ou missionnaire de parler des expos en région. Mais faut aussi dire qu'à un moment donné, une fois que tu as fait les principaux, le Musée des Beaux-Arts de Nantes, le Frey des Pays de la Loire, Kerguénec, tu as 10 lieux, quoi. Tu as 10 lieux dans l'Ouest. Et puis voilà, donc à un moment donné, et pour les auteurs c'est encore pire, et à un moment donné t'as envie d'aller voir ailleurs, t'as envie d'agrandir justement le territoire que tu commentes, et naturellement t'es amené à aller à la capitale. Et voilà, donc si tu veux, pour en revenir à 02, au départ on a bâti justement cette revue en réaction au manque de support en région, et justement pour faire exister une revue à Nantes, en province, et justement contrer cette espèce de côté hiérarchique, pyramidal, centralisateur à l'extrême de la France. Et puis, au bout du compte, je me retrouve à Paris. Voilà. Parce que, de fait, c'est extrêmement difficile de lutter contre cet état de fait. Paris, c'est quand même en France et en Europe encore, c'est un aimant très puissant. C'est la place forte, je dirais, en France, c'est une des places fortes en Europe. C'est là où sont concentrés 90% des auteurs, je dirais. Donc à un moment donné, quand tu veux faire exister une revue, t'as pas tellement le choix, quoi. Il faut être à Paris. Bon, non seulement pour les auteurs, mais aussi pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire que tu peux difficilement crédibiliser ton action si tu passes pas par la case parisienne. C'est-à-dire que t'as besoin à un moment donné de faire tes preuves à Paris. Voilà, on n'a pas changé du temps de Balzac, on est toujours au même niveau en fait. Il n'y a pas de, comment dire, la province n'existe pas de manière autonome en France. Et au point de vue, pour les revues, en tout cas pour les revues c'est réel. Pour les centres d'art, ça l'est moins, puisque dans le passé, il y a des centres d'art qui ont fait la preuve du contraire. Le magasin, le CAPC, qui revit d'ailleurs brillamment grâce à Charlotte Lebar. Charlotte Lebar qui a écrit dans 02 pendant un moment. La Ville Arson. Donc, ça pourrait démentir un peu, en tout cas en ce qui concerne les auteurs à la revue, le passage parisien est quasiment forcé. Mais parce que, c'est un fonctionnement moléculaire, je dirais. Il y a plus de rencontres qui se créent, puisque la ville est plus dense et suscite plus de rencontres, donc plus d'activités, je dirais, cérébrales, de rencontres, et etc. c'est pas du tout un jugement moral que j'émets. C'est justement, c'est simplement un jugement pragmatique, réaliste. Mais en tout cas, pour la rencontre avec les auteurs, moi, je délibérément, il y avait des gens que j'avais envie de faire écrire dans la revue. Il y avait des gens que j'aimais bien. Moi, je sais qu'il y a des revues qui ont eu beaucoup d'importance pour moi. Il y a eu Omnibus et puis il y a eu Parpaing, quand on a fondé la revue. Omnibus, il y avait David Perrault, que j'aimais bien. Je lui ai demandé d'écrire, il a écrit un 0-2 tout de suite. Parpaing, il y avait Elisabeth Vetterwald et puis Judica Lavrador. Et voilà, on les a débauchés tout de suite. Ça n'a pas traîné. C'est pareil, je dirais qu'on les a vraiment débauchés, quoi. À un moment donné, j'ai demandé à Judica Elisabeth de venir écrire. Et puis ils ont quitté Parpaing, quoi, en gros. Parce que on leur offrait peut-être quelque chose d'un peu plus professionnel, plus, parce que en fait on est devenu à un moment donné quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel à 0-2. On avait un vrai directeur artistique, on avait un vrai imprimeur, on avait un vrai secrétaire de rédaction, une vraie relecture, on payait les gens. Donc du coup, on est devenu aussi extrêmement crédible. Donc pour un auteur, à un moment donné, c'était bien. Ça l'est toujours. Dire de venir écrire dans la revue, c'est intéressant parce qu'on offre quand même un espace, si tu veux, finalement de liberté, de réflexion. Les gens sont rémunérés, ce qui n'est pas le cas pour toutes les revues. Et puis ils sont diffusés aussi. Donc on joue aussi ce rôle. En fait, on joue un peu le même rôle pour The Gallery, c'est-à-dire de tremplin en fait pour les artistes, les jeunes artistes, que pour les auteurs. En fait, il y a plein de gens qui sont passés par chez nous, qui maintenant ne le sont plus, parce que là, sur les deux dernières années, on a perdu beaucoup de rédacteurs parce qu'ils sont tous devenus directeurs de centres d'art ou de FRAC. Alors, exemple, Charlotte Lobard, elle est maintenant directrice du CAPC. Claire Jacquet, directeur du FRAC Aquitaine. Florence Durieux, elle est directeur du FRAC Reims. Bon, elle a écrit un article ou deux, mais ça, c'est en deux ans. Donc, effectivement, on est conscient de ça. Hein. Les gens viennent écrire dans une revue, puis c'est important aussi quand tu es dans une carrière, tu poursuis une carrière dans l'art contemporain, de pouvoir étaler tes idées. Donc, la revue, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à te faire repérer. Et je crois que les gens 0-2 le savent pertinemment. Et ils en ont aussi usé. Tout le monde en est conscient, de toute manière. Bon, après, moi, ce qui me chagrine, c'est que une fois que, voilà, Claire Jacquet devient directrice d'un FRAC Aquitaine, bon, bah, elle n'a plus le temps d'écrire pour nous. Bon, c'est dommage. Donc, ça veut dire qu'il faut constamment penser à renouveler. Je dirais le stock des jeunes auteurs, tout en pensant aussi à faire écrire d'autres personnes qu'on souhaite conserver. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un comme Vincent Pécoil, par exemple, je dirais qu'on n'a plus les moyens de le garder au sein de la revue, parce que Vincent, bon, il nous pondait des textes énormes, à un moment donné, je comprends, il faut les payer aussi, ces gens, il faut les payer, je dirais, il faut bien les rémunérer, et à un moment donné, on ne peut plus suivre, nous non plus. Voilà, on arrive aux limites de ce qu'on est capable aussi de fournir aussi pour des auteurs, parce que l'économie, quand même, d'une revue, comme 0-2, bon, elle est quand même, je dirais, faut se battre, quoi. C'est pas simple. C'est pas simple. À chaque fois, il faut aller chercher l'argent pour le produire. Il n'y a rien. Hein. D'un numéro sur l'autre, tout est remis sur le, Voilà, il faut... On a 3 mois, en fait, pour ramener l'argent, pour la produire. On n'a pas d'avance, jamais. Tout est à nouveau, tout est remis sur le tapis, quoi.